Lettre choisie des liaisons dangereuses de Chauderlos de Laclos. Lettre 48. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel.
C'est après une nuit orageuse et pendant laquelle je n'ai pas fermé l'œil. C'est après avoir été sans cesse ou dans l'agitation d'une ardeur dévorante ou dans l'entier anéantissement de toutes les facultés de mon âme que je viens chercher auprès de vous, madame, un calme dont j'ai besoin et dont pourtant je n'espère pas pouvoir jouir encore. En effet, la situation où je suis en vous écrivant me fait connaître, plus que jamais, la puissance irrésistible de l'amour. J'ai peine à conserver assez d'empire sur moi pour mettre quelque ordre dans mes idées, et déjà je prévois que je ne finirai pas cette lettre sans être obligée de l'interrompre. Quoi ? Ne puis-je donc espérer que vous partagerez quelque jour le trouble que j'éprouve en ce moment ? J'ose croire cependant que, si vous le connaissiez bien, vous n'y seriez pas entièrement insensible. Croyez-moi, madame, la froide tranquillité, le sommeil de l'âme, image de la mort, ne mènent point au bonheur. Les passions actives peuvent seules y conduire. Et malgré les tourments que vous me faites éprouver, je crois pouvoir assurer sans crainte que, dans ce moment même, je suis plus heureux que vous. En vain m'accablez-vous de vos rigueurs désolantes, elles ne m'empêchent point de m'abandonner entièrement à l'amour, et d'oublier dans le délire qu'il me cause, le désespoir auquel vous me livrez. C'est ainsi que je veux me venger de l'exil auquel vous me condamnez. Jamais je n'eus tant de plaisir en vous écrivant. Jamais je ne ressentis dans cette occupation une émotion si douce et cependant si vive. Tout semble augmenter mes transports. L'air que je respire est brûlant de volupté, la table même sur laquelle je vous écris, consacrée pour la première fois à cet usage, devient pour moi l'autel sacré de l'amour. Combien elle va s'embellir à mes yeux, j'aurai tracé sur elle le serment de vous aimer toujours. Pardonnez, je vous en supplie, le délire que j'éprouve. Je devrais peut-être m'abandonner moins à des transports que vous ne partagez pas. Il faut vous quitter un moment pour dissiper une ivresse qui s'augmente à chaque instant et qui devient plus forte que moi. Je reviens à vous, madame, et sans doute j'y reviens toujours avec le même empressement. Cependant, le sentiment du bonheur a fui loin de moi, il a fait place à celui des privations cruelles. À quoi me sert-il de vous parler de mes sentiments si je cherche en vain les moyens de vous en convaincre? Après tant d'efforts réitérés, la confiance et la force m'abandonnent à la fois. Si je me retrace encore les plaisirs de l'amour, c'est pour sentir plus vivement le regret d'en être privé. Je ne me vois de ressources que dans votre indulgence, et je sens trop dans ce moment combien j'en ai besoin pour espérer de l'obtenir. Cependant, jamais mon amour ne fut plus respectueux, jamais il ne dut moins vous offenser. Il est tel, j'ose le dire, que la vertu la plus sévère ne devrait pas le craindre. Et je crains moi-même de vous entretenir plus longtemps de la peine que j'éprouve. Assuré que l'objet qui la cause ne la partage pas, il ne faut pas au moins abuser de ses bontés, et ce serait le faire que d'employer plus de temps à vous retracer cette douloureuse image. Je ne prends plus que celui de vous supplier de me répondre, et de ne jamais douter de la vérité de mes sentiments.
Timbré de Paris. Écrite de P. Daté de Paris, ce 30 août. Lettre 97. Cécile de Volanges à la marquise de Merteuil.
Ah mon Dieu, madame, que je suis affligée, que je suis malheureuse. Qui me consolera dans ma peine? Qui me conseillera dans l'embarras où je me trouve? Ce monsieur de Valmont et Danceny? Non, l'idée de Danceny me met au désespoir. Comment vous raconter? Comment osez-vous dire? Je ne sais comment faire. Cependant, mon cœur est plein. Il faut que je parle à quelqu'un, et vous êtes la seule à qui j'ose me confier. Vous avez tant de bonté pour moi. Mais n'en ayez pas dans ce moment-ci. Je n'en suis pas digne. Que vous dirais-je? je ne le désire point. Tout le monde ici m'a témoigné de l'intérêt aujourd'hui. Ils ont tous augmenté ma peine. Je sentais tant que je ne le méritais pas. Grondez-moi au contraire, grondez-moi bien, car je suis bien coupable. Mais après, sauvez-moi. Si vous n'avez pas la bonté de me conseiller, je mourrai de chagrin. Apprenez donc. Ma main tremble, comme vous voyez, je ne peux presque pas écrire. Je me sens le visage tout en feu. Ah, c'est bien le rouge de la honte. Eh bien, je la souffrirai. Ce sera la première punition de ma faute, oui. Je vous dirai tout. Vous saurez donc que M. de Valmont, qui m'a remis jusqu'à présent les lettres de M. Danceny, a trouvé tout d'un coup que c'était trop difficile. Il a voulu avoir une clé de ma chambre. Je puis bien vous assurer que je ne le voulais pas, mais il a été en écrire à Danceny, et Danceny l'a voulu aussi. Et moi, ça me fait tant de peine quand je lui refuse quelque chose, surtout depuis mon absence qui le rend si malheureux, que j'ai fini par y consentir. Je ne prévoyais pas le malheur qui en arriverait. Hier, M. de Valmont s'est servi de cette clé pour venir dans ma chambre, comme j'étais endormie. Je m'y attendais si peu qu'il m'a bien fait peur en me réveillant. Mais comme il m'a parlé tout de suite, je l'ai reconnu et je n'ai pas crié. Et puis l'idée m'est venue d'abord qu'il venait peut-être m'apporter une lettre de Danceny. C'en était bien loin. Un petit moment après, il a voulu m'embrasser. Et pendant que je me défendais, comme c'est naturel, il a si bien fait que je n'aurais pas voulu pour toute chose au monde, mais lui voulait un baiser auparavant. Il a bien fallu, car comment faire ? D'autant que j'avais essayé d'appeler, mais outre que je n'ai pas pu, il a bien su me dire que s'il venait quelqu'un, il saurait bien rejeter toute la faute sur moi. Et en effet, c'était bien facile, à cause de cette clé. Ensuite, il ne s'est pas retiré davantage, il en a voulu un second, et celui-là, je ne savais pas ce qui en était, mais il m'a toute troublée. Et après, c'était encore pire qu'auparavant. Par exemple, c'est bien mal ça, mais... Enfin, après... Vous m'exempterez bien de dire le reste. Mais je suis malheureuse autant qu'on peut l'être. Ce que je me reproche le plus, et dont il faut pourtant que je vous parle, c'est que j'ai peur de ne m'être pas défendue autant que je le pouvais. Je ne sais pas comment cela se faisait. Sûrement, je n'aime pas M. de Valmont, bien au contraire. Et il y avait des moments où j'étais comme si je l'aimais. Vous jugez bien que cela ne m'empêchait pas de lui dire toujours que non, mais je sentais bien que je ne faisais pas comme je disais, et ça, c'était comme malgré moi, et puis aussi, j'étais bien troublée. S'il est toujours aussi difficile que ça de se défendre, il faut y être bien accoutumé. Il est vrai que ce monsieur de Valmont a des façons de dire qu'on ne sait pas comment faire pour lui répondre. Enfin... Croiriez-vous que quand il s'en est allé, j'en étais comme fâchée et que j'ai eu la faiblesse de consentir qu'il revînt ce soir ? Ça me désole encore plus que tout le reste. Oh, malgré ça, je vous promets bien que je l'empêcherai d'y venir. Il n'a pas été sorti que j'ai bien senti que j'avais eu tort de lui promettre. Aussi j'ai pleuré tout le reste du temps. C'est surtout Danceny qui me faisait de la peine toutes les fois que je... Songeais à lui, mes pleurs redoublaient, que j'en étais suffoquée, et j'y songeais toujours. Et à présent encore, vous en voyez les faits, voyez mon... Voilà mon papier tout trempé. Non, je ne me consolerai jamais, ne fût-ce qu'à cause de lui. Enfin, je n'en pouvais plus, et pourtant, je n'ai pas pu dormir une minute. Ce matin, en me levant, quand je me suis regardée au miroir, je faisais peur, tant j'étais changée. Maman s'en est aperçue dès qu'elle m'a vue et elle m'a demandé ce que j'avais. Moi, je me suis mise à pleurer tout de suite. Je croyais qu'elle m'allait gronder et peut-être ça m'aurait fait moins de peine, mais au contraire, elle m'a parlé avec douceur. Je ne le méritais guère. Elle m'a dit de ne pas m'affliger comme ça. Elle ne savait pas le sujet de mon affliction, que je me rendrais malade. Il y a des moments où je voudrais être morte. Je n'ai pas pu y tenir, je me suis jetée dans ses bras en sanglotant et en lui disant « Ah maman, votre fille est bien malheureuse !» Maman n'a pas pu s'empêcher de pleurer un peu et tout cela n'a fait qu'augmenter mon chagrin. Heureusement, elle ne m'a pas demandé pourquoi j'étais si malheureuse, car je n'aurais su que lui dire. Je vous en supplie, madame. Écrivez-moi, le plus tôt que vous pourrez, et dites-moi ce que je dois faire. Car je n'ai le courage de songer à rien, et je ne fais que m'affliger. Vous voudrez bien m'adresser votre lettre par monsieur de Valmont, mais je vous en prie, si vous lui écrivez en même temps, ne lui parlez pas que je vous ai rien dit. J'ai l'honneur d'être, madame, avec toujours bien de l'amitié, votre très humble et très obéissante servante. Je n'ose pas signer cette lettre.
Du château 2, ce 1er octobre 1700. Lettre 141. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont.
Mon Dieu, vicomte, que vous me gênez par votre obstination. Que vous importe mon silence ? Croyez-vous, si je le garde, que ce soit faute de raison pour me défendre ? Ah, plût à Dieu ! Mais non, c'est seulement qu'il m'en coûte de vous les dire. Parlez-moi vrai. Faites-vous illusion à vous-même ? Ou cherchez-vous à me tromper ? La différence entre votre discours et vos actions ne me laisse le choix qu'entre deux sentiments. Lequel est le véritable ? Que voulez-vous donc que je vous dise ? Comme moi-même, je ne sais que penser. Vous paraissez vous faire un grand mérite de votre dernière scène avec la présidente. Mais qu'est-ce donc qu'elle prouve pour votre système ou contre le mien ? Assurément, je ne vous ai jamais dit que vous aimiez assez cette femme pour ne pas la tromper. Pour n'en pas saisir toutes les occasions qui vous paraîtraient agréables ou faciles. Je ne me doutais même pas qu'il ne fût à peu près égal de satisfaire avec une autre, avec la première venue, jusqu'au désir que celle-ci seule aurait fait naître. Et je ne suis pas surprise que, par un libertinage d'esprit qu'on aurait tort de vous disputer, vous ayez fait une fois par projet ce que vous aviez fait mille autres par occasion. Qui ne sait que c'est là le simple courant du monde et votre usage à tous tant que vous êtes, depuis le scélérat jusqu'aux espèces. Celui qui s'en abstient aujourd'hui passe pour romanesque, et ce n'est pas là, je crois, le défaut que je vous reproche. Mais ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, ce que je pense encore, c'est que vous n'en avez pas moins de l'amour pour votre présidente. Non pas, à la vérité, de l'amour bien pur ni bien tendre, mais de celui que vous pouvez avoir, de celui, par exemple, qui fait trouver à une femme les agréments ou les qualités qu'elle n'a pas, qui la place dans une classe à part et met toutes les autres en second ordre, qui tient attaché à elle, même alors que vous l'outragez, tel enfin que je conçois qu'un sultan peut le ressentir pour sa sultane favorite, ce qui ne l'empêche pas de lui préférer souvent une simple odalisque. Ma comparaison me paraît d'autant plus juste que, comme lui, jamais vous n'êtes ni l'amant ni l'ami d'une femme, mais toujours son tyran ou son esclave. Aussi suis-je bien sûr que vous êtes bien humilié, bien avili, pour entrer en grâce avec ce bel objet. Et trop heureux d'y être parvenu, dès que vous croyez le moment arrivé d'obtenir votre pardon, vous me quittez pour ce grand événement. Encore dans votre dernière lettre, si vous ne m'y parlez pas de cette femme uniquement, c'est que vous ne voulez me rien dire de vos grandes affaires. Elle vous semble si importante que le silence que vous gardez sur elle, vous le croyez une punition pour moi. C'est après ces mille preuves de votre préférence décidée pour une autre que vous me demandez tranquillement s'il y a encore quelque intérêt commun entre vous et moi. Prenez garde, vicomte. Si une fois je réponds, ma réponse sera irrévocable. Et craindre de la faire en ce moment, c'est déjà peut-être en dire trop. Aussi, je n'en veux absolument plus parler. Tout ce que je peux faire, c'est de vous raconter une histoire. Peut-être n'aurez-vous pas le temps de la lire, ou celui d'y faire assez attention pour la bien entendre. Libre à vous. Ce ne sera au pis-aller qu'une histoire de perdu. Un homme de ma connaissance s'était empêtré, comme vous, d'une femme qui lui faisait peu d'honneur. Il avait bien, par intervalle, le bon esprit de sentir que, tôt ou tard, cette aventure lui ferait tort. Mais quoi qu'il en rougît, il n'avait pas le courage de rompre. Son embarras était d'autant plus grand qu'il s'était vanté à ses amis d'être entièrement libre et qu'il n'ignorait pas que le ridicule qu'on a augmente toujours en proportion qu'on s'en défend. Il passait ainsi sa vie, ne cessant de faire des sottises et ne cessant de dire après « Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. » Cet homme avait une amie qui fut tentée un moment de le livrer au public dans cet état d'ivresse et de rendre ainsi son ridicule ineffaçable. Mais pourtant, plus généreuse que maligne, ou peut-être encore par quelque autre motif, elle voulut tenter un dernier moyen pour être, à tout événement, dans le cas de dire, comme son amie, « Ce n'est pas ma faute. » Elle lui fit donc parvenir, sans aucun autre avis, la lettre qui suit, comme un remède dont l'usage pourrait être utile à son mal. On s'ennuie de tout, mon ange. C'est une loi de la nature. Ce n'est pas ma faute. Si, donc, je m'ennuie aujourd'hui d'une aventure qui m'a occupée entièrement depuis 4 mortels mois, ce n'est pas ma faute. Si, par exemple, j'ai eu juste autant d'amour que toi de vertu, et c'est sûrement beaucoup dire, il n'est pas étonnant que l'un ait fini en même temps que l'autre. Ce n'est pas ma faute. Aujourd'hui, une femme que j'aime éperdument exige que je te sacrifie. Ce n'est pas ma faute. Je sens bien que te voilà une belle occasion de crier au parjure. Mais si la nature n'a accordé aux hommes que la constance, tandis qu'elle donnait aux femmes l'obstination, ce n'est pas ma faute. Crois-moi, choisis un autre amant, comme j'ai fait une autre maîtresse. Ce conseil est bon, très bon. Si tu le trouves mauvais, ce n'est pas ma faute. Adieu, mon ange. Je t'ai prise avec plaisir, je te quitte sans regret. Je te reviendrai peut-être. Ainsi va le monde. Ce n'est pas ma faute. De vous dire, vicomte, l'effet de cette dernière tentative et ce qui s'en est suivi, ce n'est pas le moment. Mais je promets de vous le dire dans ma première lettre. Vous y trouverez aussi mon ultimatum sur le renouvellement du traité que vous me proposez. Jusque-là, adieu, tout simplement. À propos, je vous remercie de vos détails sur la petite Volange. C'est un article à réserver jusqu'au lendemain du mariage, pour la Gazette des Médisances. En attendant, je vous fais mon compliment de condoléance sur la perte de votre postérité. Bonsoir, vicomte.
Du château 2, ce 24 novembre 1700. Lettre 161. La présidente de Tourvel a...
Être cruel, malfaisant, ne te lasseras-tu point de me persécuter ? Ne te suffit-il pas de m'avoir tourmenté, dégradé, avili? Peux-tu me ravir jusqu'à la paix du tombeau? Quoi? Dans ce séjour de ténèbres où l'ignominie m'a forcé de m'ensevelir, les peines sont-elles sans relâche? L'espérance est-elle méconnue? Je n'implore point une grâce que je ne mérite point. Pour souffrir sans me plaindre, il me suffira que mes souffrances n'excèdent pas mes forces, mais ne rends pas mes tourments insupportables. En me laissant mes douleurs, ôte-moi le cruel souvenir des biens que j'ai perdus. Quand tu me les as ravis, n'en retrace plus à mes yeux la désolante image. J'étais innocente et tranquille. C'est pour t'avoir vu que j'ai perdu le repos. C'est en t'écoutant que je suis devenue criminelle, auteur de mes fautes. Quel droit as-tu de les punir? Où sont les amis qui me chérissaient? Où sont-ils? Mon infortune les épouvante. Aucun n'ose m'approcher. Je suis opprimée. Ils me laissent sans recours. Je meurs et personne ne pleure sur moi. Toute consolation m'est refusée. La pitié s'arrête sur les bords de l'abîme où le criminel se plonge. Les remords le déchirent et les cris ne sont pas entendus. Et toi, que j'ai outragé, toi dont l'estime ajoute à mon supplice, toi qui seul enfin aurais le droit de te venger, que fais-tu loin de moi? Viens me punir, une femme infidèle. Que je souffre enfin des tourments mérités, déjà je me serais soumise à ta vengeance, mais le courage m'a manqué pour t'apprendre ta honte. Ce n'était point dissimulation, c'était respect. Que cette lettre au moins t'apprenne mon repentir, le ciel a pris ta cause. Il te venge d'une injure que tu as ignorée. C'est lui qui a lié ma langue et retenu mes paroles. Il a craint que tu ne me remisses une faute qu'il voulait punir. Il m'a soustraite à ton indulgence qui aurait blessé sa justice. Impitoyable dans sa vengeance, il m'a livré à celui-là même qui m'a perdu. C'est à la fois pour lui et par lui que je souffre. Je veux le fuir en vain, il me suit, il est là, il m'obsède sans cesse, mais qu'il est différent de lui-même. Ses yeux n'expriment plus que la haine et le mépris. Sa bouche ne profère que l'insulte et le reproche. Ses bras ne m'entourent que pour me déchirer. Qui me sauvera de sa barbare fureur? Mais quoi, c'est lui, je ne me trompe pas. C'est lui que je revois. Oh, mon aimable ami, reçois-moi dans tes bras. Cache-moi dans ton sein. Oui, c'est toi. C'est bien toi. Quelle illusion funeste m'avait fait te méconnaître. Combien j'ai souffert dans ton absence. Oh, ne nous séparons plus jamais. Laisse-moi respirer. Sens comme mon cœur palpite. Ah, ce n'est plus de crainte. C'est la douce émotion de l'amour. Pourquoi te refuses-tu à mes tendres caresses? Tourne vers moi tes doux regards. Quels sont ces liens que tu cherches à rompre? Pour qui prépares-tu cet appareil de mort? Qui peut altérer ainsi tes traits? Que fais-tu? Laisse-moi, je frémis. Dieu, c'est ce monstre encore. Mes amis, ne m'abandonnez pas. Vous m'invitez à le fuir. Aidez-moi à le combattre. Et vous qui, plus indulgente, me promettiez de diminuer mes peines, venez donc auprès de moi. Où êtes-vous toutes deux? S'il ne m'est plus permis de vous revoir, répondez au moins à cette lettre, que je sache que vous m'aimez encore. Laissez-moi donc, cruelle, quelle nouvelle fureur t'anime? Crains-tu qu'un sentiment doux ne pénètre jusqu'à mon âme? Tu redoubles mes tourments, tu me forces de te trahir. Oh, que la haine est douloureuse, comme elle corrode le cœur qui la distille. Pourquoi me persécutez-vous? Que pouvez-vous encore avoir à me dire? Ne m'avez-vous pas mise dans l'impossibilité de vous écouter comme de vous répondre? N'attendez plus rien de moi. Adieu, monsieur.
Dictée par elle et écrite par sa femme de chambre. Paris, ce 5 décembre 1700.